des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 6 juin 2020. On est rendu à l'été, mon cher Germain.
C'est officiel.
C'est pas mal officiel. Et ben là, on a vu les chiffres de vente de mai sortir.
Pour le Québec.
Pour le Québec, pour le Canada aussi. Bon, évidemment, les constructeurs ont comme moins envoyé de communiqués à ce sujet-là.
C'est drôle, hein? Ma boîte de courriel, normalement, la première journée du mois est toujours bien remplie. Et soudainement, il y en avait
moins. Particulièrement chez Mitsubishi, et moi, je ne sais pas pourquoi, moi, en ce qui me concerne, Mitsubishi et Ford, je reçois toujours une demi-douzaine de communiqués le premier du mois pour les ventes. Et là, j'ai rien reçu.
Pareil, chez Infiniti et Nissan. On est fort.
Nissan, et particulièrement, Nissan n'a pas envoyé ces chiffres-là. Et ça m'amène à dire que Nissan est le constructeur, écoutez bien ça, qui a subi la plus grosse baisse de vente en mai par rapport à l'année passée. Faut quand même souligner que les concessionnaires en dehors de la grande région de Montréal étaient ouverts dès le 8 mai. Et dans la grande région de Montréal, ça a été plutôt autour du 25. Mais il y a quand même des véhicules qui se sont vendus au mois de mai au Québec. Et chez Nissan, c'est moins 64%. C'est 64% de baisse de vente par rapport à mai de l'année passée, ce qui est énorme. Et du côté de chez Mazda, on est autour de 40. Là, il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui se situent dans le 35, 40, 45. Et Kia, c'est totalement étonnant. On recevra d'ailleurs en deuxième partie d'émission Pascal Lapierre, qui est directeur régional pour Kia Canada, qui va nous expliquer un peu comment ça se fait qu'on a subi qu'une baisse de seulement 8 % au Québec.
C'est exceptionnel.
Moi, honnêtement, je trouve ça impressionnant et c'est pour ça que j'ai voulu le recevoir. Parce que Kia est une compagnie qui est en ascension au Québec depuis un an, mais avant ça, on avait un petit peu de la misère à tenir le cap. Les ventes étaient en baisse depuis 2-3 ans. Là, bon, il y a deux produits qui ont aidé beaucoup, évidemment, récemment, c'est le Telluride et le Seltos qui vient d'arriver.
Oh oui, mais c'est pas le seul constructeur qui est débarqué dans la dernière année avec des produits intéressants. Non,
c'est
plus,
ça. C'est tout un exploit en ce qui me concerne. Seulement 8 % de baisse de vente. Ouais. C'est
ça doit être au-delà de leurs attentes, c'est évident.
C'est clair. Nouvelle intéressante, on va parler de Mazda justement parce que sans que Mazda l'ait confirmé, on peut affirmer aujourd'hui que la Mazda 3 2021 et le CX-30 aussi seront offerts avec un moteur turbo.
Oui, exactement. Donc, c'était une information qui a été divulguée aux concessionnaires américains, une espèce de catalogue qui leur était acheminé. Et là-dedans, il était question d'un moteur turbo pour la Mazda 3. Moteur turbo qui serait jumelé seulement avec des versions à 4 roues motrices. Donc, ce qui en fait une configuration assez intéressante. Et berline autant que haillon. Et comme la Mazda 3 et le CX-30,
c'est la même affaire.
C'est la même affaire avec juste une coquille qui est un peu différente. On devrait l'avoir aussi pour le CX-30. Il n'y a pas eu de confirmation de la part du manufacturier, mais ça s'enligne assez sérieusement pour
c'est-à-dire,
ça.
C'est-à-dire, il n'y a pas eu de confirmation de la part du manufacturier, mais pour avoir parlé à des gens de chez Mazda, on m'a confirmé qu'il y avait des changements de prévus pour 2021, autant pour la Mazda 3 que le CX-30. Ouais. Et des changements logiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diesel qui va arriver là. On s'entend. Puis je veux dire, tout est 100% logique là-dedans parce que on veut, avec la Mazda 3 Turbo, par exemple, aller rivaliser avec une GTI, avec les Hyundai Elantra GT N-Line, avec la Forte 5, avec toutes ces voitures-là qui offrent plus de 200 chevaux de puissance. Puis la Mazda va le faire efficacement. Ça risque d'être assez le fun, d'ailleurs, à conduire. Là, on va commencer à parler d'une voiture dont le rapport poids-puissance est intéressant chez Mazda.
Et en plus, on va avoir 4 roues motrices.
Et on va avoir 4 roues motrices, mais seulement avec la boîte automatique.
Ouais.
Donc, c'est essentiellement le groupe motopropulseur qu'on retrouve dans le CX-9, le CX-5. Mazda, c'est pas compliqué. Là. On roule avec 3 mécaniques.
Ouais, et puis
parce qu'il faut aussi mentionner qu'on a retiré pour 2020, et ça, c'est un gag monumental, le diesel du CX-5 qu'on a amené au compte-gouttes en 2019.
On le retire, mais est-ce qu'on l'a déjà réellement amené en théorie et pour exemplaires?
On l'a officiellement amené parce que pour avoir fouillé sur Internet récemment, il y a plusieurs Mazda CX-5 diesel qui sont présentement à vendre chez les concessionnaires parce
plusieurs,
que personne n'en
a. Mais plusieurs étant...
J'en ai vu 4-5, ce qui doit représenter au Québec 30 % de ce qu'on a offert ici. Ouais. C'est-à-dire, si on en a vendu une centaine au Canada, c'est beau, là. CX-5 diesel, ça avait plus sa place. On s'est obstiné chez Mazda à l'offrir quand même. Ça a été un fiasco. Et là, regarde, 2020, on n'en a même pas produit. Et il y a peut-être une question d'homologation aussi qui rentre en ligne
de compte. C'est possible,
c'est possible. Oubliez ça, c'est disparu, c'est fini. Et pas besoin de te dire que Mazda n'a pas écrit de gros communiqués à ce sujet-là.
Non, on est resté assez discret. Donc voilà pour la Mazda 3 et son moteur turbo pour 2021.
Tu voulais me parler de James Bond?
Oui, je ne sais pas si tu es un fan de James Bond. Moi, je suis plus de la génération Pierce Brosnan en raison de mon absence.
Répète-moi son nom, s'il te plaît.
Pierce Brosnan.
Brosnan?
Brosnan.
Bon, alors Germain, je t'invite à googler son nom pour le dire comme il faut. C'est pas grave. Mais
Brosnan, non?
Écoute.
Non, j'ai un doute, là. Okay.
Alors, envoyez-nous vos photos, vos print screens. Germain a besoin d'écho.
Bon, ça va ressembler à ça. Mais tout ça pour dire que Aston Martin va reprendre la production de la DB5, donc de la version comme on pouvait voir dans le film Goldfinger.
Ouais.
Et avec là, certains accessoires. Et malheureusement, ce ne sera pas immatriculable sur la rue pour des raisons évidentes, en raison des accessoires, justement. Et on va en faire 25, si ma mémoire est bonne.
Donc, ils ne mettront pas de mécanique AMG dedans, là.
Non.
Merci.
Non.
Parce qu'il faut souligner que les récentes Aston Martin utilisent des moteurs Mercedes-Benz. Et ça, je trouve que c'est, même si technologiquement,
c'est avancé, là.
Ça s'appelle dépersonnaliser une voiture anglaise.
Voilà. Donc, on reprend la production. Évidemment, elles vont toutes être argentées. Et tiens-toi bien, hein, parce que c'est pas donné. Parce qu'on aura deviné que la demande est forte, parce que des fans de James Bond et des fans d'anciennes Aston Martin, il y en a beaucoup. On parle de 4,6 millions de dollars. Voilà.
Ça fait combien, ça, par mois?
Je sais pas. Bonne question. Et on parlait pas de location non plus. Je sais pas.
Non,
je sais pas pourquoi.
C'est ça.
Je sais pas pourquoi.
On sait que Jean-Guy Mathers est décédé il y a maintenant quelques années.
Oui, en 2018, alors qu'il avait 89 ans.
Bon, alors Jean-Guy Mathers, c'était le propriétaire d'un empire dans la région de Saint-Eustache. Donc, le cinéma.
Un homme d'affaires prospère, voilà. Bien connu, assez coloré aussi.
Assez coloré, assez controversé, je dirais même.
Oui.
Donc là, on a appris que sa collection de voitures personnelles serait vendue à l'encan, mais ce sont des voitures qui représentent très bien le personnage.
Oui, exactement. Donc, c'était des voitures qui étaient exposées dans le hall d'entrée de son spa qui était à Saint-Eustache. Et,
oui, parce qu'il faut mentionner que ça aussi, c'est fermé maintenant.
Oui, exactement. Donc, c'est suite à cette fermeture-là et le bâtiment, lui, va être détruit. Donc, on a annoncé que les véhicules allait être vendu à l'encan et je te les donne en rafale, Antoine. Lincoln Town Car Limousine, donc quelque chose de chic. Là. De
quelle année?
87, là, les carrés.
Oui.
Là, les carrés. Et une Rolls-Royce Corniche, une Silver Spur, une Cadillac Alante et une Mercedes 300 CE 92. Et la plus récente, c'est une Ford Thunderbird 2002. Donc, voilà.
Toutes des voitures qui auraient très bien fité avec J.R. Ewing's.
Hein? Si tu le dis, je ne connais pas.
Non, c'est vrai, Germain, tu ne connais pas. J.R. Ewing, c'était évidemment la vedette de la télésérie américaine Dallas dans les années 80.
Oui.
Alors, et d'ailleurs, on avait vu une Cadillac Alante dans cette série-là.
Bon, comme quoi. Hein?
J.R. Ewing avait remplacé sa 560 SL par une Cadillac Alante.
Oui, pas sûr que c'était un bon move, ça.
Bonjour le downgrade.
Et les photos sont toutes sur le site du guide de l'auto. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Et vous remarquerez les écussons dorés dans les portes des véhicules qui étaient un peu là, la marque de commerce du coloré personnage.
Bon, alors, le circuit électrique qui doit être sur pause un peu de ce temps-là. Hein?
Oui. Et y a pas grand-chose à dire. Tout simplement qu'il y a une nouvelle application pour le circuit électrique. Donc, on sait que c'est une application qui permet de retracer là, les différentes bornes du circuit et de voir si elles sont utilisées ou non.
Ouais.
Bon, et on a fait là, une refonte complète de l'application. Donc, vous pouvez aller jeter un œil. Surtout si vous avez un véhicule électrique. Sinon,
ouais, ça serait pratique.
C'est un peu
si vous avez acheté un Silverado, ça ne sert pas à grand-chose.
Non, voilà.
Ça ne sert pas à grand-chose. Et
si vous avez acheté un Silverado, ben, téléchargez Cube Radio.
Voilà, exactement. Maintenant, véhicule de la semaine, tu nous parles du Kia Sorento qui n'a pas changé.
Qui n'a pas changé, mais c'est le modèle 2020. J'ai pas une tonne de choses à dire sur ce véhicule-là. J'en parlais ce matin même avec un ami qui était curieux de connaître mes impressions. Je dis, c'est ordinaire partout. Donc, ça fait rien d'exceptionnellement bien, mais ça fait rien de mal non plus.
Moi, là, c'est pareil. Juste... Moi, je me permets de dire, et j'ai le même rapport en ce qui concerne le Hyundai Santa Fe.
Oui.
Je m'installe à bord de ce véhicule-là, je le regarde, c'est bien dessiné, c'est élégant, l'ergonomie, elle est parfaite, l'équipement est là, le véhicule est bien garanti. Dans le cas du Sorento avec un 6 cylindres, c'est très bien motorisé.
Oui.
Mais on dirait qu'il n'y a aucune personnalité à ce véhicule.
Exactement.
J'ai rien à dire.
Oui.
Ça ne m'attire pas parce qu'il n'y a pas... Tu ne peux pas y trouver une qualité particulière ou un défaut particulier.
Il n'y a rien qui fait qu'il se démarque en bien ou en mal d'un autre. Donc,
mais c'est un produit 100% rationnel.
Tout à fait.
Et dans le cas de la version que tu conduis, quand même assez luxueux.
Oui, c'est une version SX. Pardon.
Ouais.
Et on est au-dessus de 50 000 $ là, mais c'est un véhicule qui part à
très populaire.
Qui part à 30 000. Depuis un an ou deux, si je ne me trompe pas, il est livré avec le rouage intégral parce que c'est populaire là, d'offrir une version de base qui va être moins chère, mais avec des roues motrices avant. Dans ce segment-là,
ce qu'on fait chez Hyundai avec le Santa Fe, on ne le fait pas du côté de chez Kia.
Je préfère la stratégie de Kia.
Qui conserve aussi un moteur V6 dans ce véhicule-là, alors que chez Hyundai, on n'a plus de V6.
Puis c'est ça, c'est V6 3.3 litres, ça fait l'affaire. Je prendrais ça bien avant le moteur 2.4, qui est le moteur de base. Mais sinon, comme tu as dit, à l'intérieur, c'est beau, c'est ergonomique, l'écran est facile, mais c'est rien pour te renverser non plus.
C'est quand même...
C'est un excellent moyen de transport.
Voilà. Alors, ça vient rivaliser, par exemple, avec des Ford Edge, des Nissan Murano, mais en offrant l'avantage d'une option de troisième rangée avant de tomber dans un véhicule plus gros comme le Telluride.
Tout à fait. Et j'ai peut-être pas fait suffisamment de recherches pour les acteurs qui ont incarné le personnage de James Bond, mais j'ai fait un peu de recherche sur le Sorento.
Ah bon?
Et au Salon de l'Auto de Los Angeles, en 2017 ou 2018, on avait présenté chez Kia une version diesel. En fait, on nous avait dit qu'on allait arriver avec une version diesel.
Ouais.
Et ça s'est arrêté là.
Ben, ça s'est arrêté
là. Et il y a eu des rumeurs de version hybride aussi.
Ben, écoute,
et tout ça s'est arrêté là.
Moi, je peux te mentionner avoir conduit la version diesel de ce véhicule-là il y a maintenant 4 ou 5 ans, alors que le véhicule arrivait sur le marché. Et imagine-toi que j'avais conduit ça dans la région de Francfort, de l'Autriche jusqu'à Francfort, sur l'autoroute.
Okay.
C'était pas un moteur diesel particulièrement impressionnant au niveau des performances. Et je peux te dire que pour l'avoir conduit sur l'autobahn,
t'étais dans la voie de droite. Hein?
Quand t'es sur l'autobahn, t'as envie d'avoir un peu de puissance et c'était pas tout à fait ça. Mais on avait l'intention chez Kia d'amener ce moteur diesel-là et on a décidé de changer d'avis. Bon, est arrivé le scandale TDI de Volkswagen, le Dieselgate, et je pense que ça a mis le clou dans le cercueil.
Oui, on s'est dit un bon 4 cylindres atmosphériques, un bon 6 cylindres atmosphériques.
Mais c'est un produit qu'on avait fortement évalué et puis on a pris la bonne décision.
Ouais.
Parce que,
mais ça n'avait pas été trop publicisé. Là,
Non, c'est ça. On avait amené, on était une demi-douzaine de journalistes du côté de l'Europe pour essayer ça. Et puis voilà, ça s'est vraiment arrêté là. Et là, tu parles de diesel. Ben moi, oui. Je conduis un véhicule diesel cette semaine, pas n'importe lequel. Le Ram Rebel 1500 éco-diesel et en version quad cab, pas en version 4 portes. Moi, je suis un fan des camionnettes à cabine allongée.
Oui.
Pas des cabines. Le nouveau Ram,
oui.
Bon, évidemment, se vend beaucoup plus en version cabine double, mais je trouve que les portières arrière qui sont plus longues que celles de l'avant,
Combien de gens achètent un Ram 1500 comme véhicule familial?
Oui, c'est correct. Mais personnellement.
Sur le plan du look, c'est moins beau. Là.
C'est ça. Personnellement, pour le look, pour le côté pratique d'avoir une caisse plus longue sans avoir une limousine à conduire,
ouais.
Je préfère avoir une cabine allongée comme celle qu'on m'a proposée cette semaine en essai. Écoute le prix de ce camion-là. C'est un Ram Rebel, donc pas un Laramie Limited, là. On est à 78 000 $ avec le moteur diesel. Il est fardé d'options. Le haillon qui s'ouvre en deux parties, les marchepieds, le système, tout ce que tu voudras est dessus. C'est un camion extraordinaire. Maintenant, le moteur diesel, ce que je constate jusqu'à maintenant, pour avoir essayé le Ford, pour avoir essayé le GM avec le Duramax, c'est un moteur qui me semble un peu plus bruyant que ce qu'on a chez GM. On affiche 480 livres-pieds de coupe, donc le coupe le plus généreux. Oui. Mais
j'avais été au lancement, moi, l'année dernière de ce modèle-là, et ça m'avait frappé, le coupe. Là.
Le coupe est impressionnant, mais j'ai préféré le couple instantané du 6 cylindres en ligne de GM.
Okay.
Même si la puissance n'est pas aussi forte, le rendement du GM m'a vraiment impressionné. J'aimerais ça les essayer un à la suite de l'autre pour vraiment comparer. J'avais beaucoup aimé le moteur Ford, en fait, qu'on utilise aussi chez Land Rover, le 3 litres Power Stroke.
Il n'est juste pas badgé de la même manière.
Il est pas, non, c'est ça. Et c'est un moteur qui est offert dans des gammes quand même assez coûteuses du côté de chez Ford. Le prix d'entrée pour un Ram, pour un F-150 diesel est plus bas que chez la compétition sur papier, mais rapidement, l'option du diesel devient très chère en montant avec les versions. Alors, choisir le diesel dans le Ram, c'est une option intéressante. Le problème, c'est que on a un historique de fiabilité qui n'est très reluisant.
Voilà.
Alors, est-ce qu'on a réussi à régler les problèmes de fiabilité de l'éco-diesel? Il faut se rappeler qu'on avait mis un rappel massif sur l'ancienne génération. Et tu te souviens, quel était ce rappel?
C'était l'urée qui gelait.
Bien, on a eu un problème de température au niveau du moteur. Et la façon de régler ça, c'était de mettre un filet sur la grille de calandre. Alors, si vous croisez un Ram avec une belle grille de calandre chromée, mais cachée par un filet noir qui permet de réchauffer le moteur plus efficacement...
Comme un vieil autobus scolaire qui a un carton en avant.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'était la facette.
Si je m'achetais un camion à 78 000 $ et qu'on me propose ça, je ne suis pas sûr que je serais de bonne humeur.
Ben c'est ça. Alors, il faut quand même mentionner que le Ram 1500 de nouvelle génération, c'est quand même un camion qui n'est pas donné. Il y a un gros écart de prix entre cette génération-là et le modèle qu'on vend actuellement comme le Ram classique.
Ben c'est pour ça qu'on continue de l'offrir, d'ailleurs, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens, là.
Ben puis c'est pas tout le monde qui veut mettre ce montant-là. Et le Ram classique demeure un camion efficace qu'on est capable de vendre aujourd'hui au prix d'un camion intermédiaire chez GM, chez Ford. Alors, c'est pour ça qu'on vend autant de Ram classique, parce qu'il faut savoir que les chiffres de vente de Ram, oui, sont impressionnants, mais je serais curieux de savoir quel est le ratio...
La proportion
de l'ancienne et la nouvelle génération.
Surtout au Québec, où il se vend moins de versions haut de gamme en général, là, probablement que la version...
C'est-à-dire que... Oui, c'est ça. Il veut dire, il se vend... Des pick-up, ça se vend de toute façon.
Alors,
qu'importe, là, ils vont finir par les vendre, c'est pas un problème. Mais je suis pas sûr qu'on va étirer cette génération du Ram-là encore très, très, très longtemps. Est-ce que Ram pourrait ramener le Dakota? On l'avait déjà mentionné.
Sérieuse à cet effet-là, mais voilà.
Fait que j'ai beaucoup aimé le Ram éco-diesel. J'ai consommé un peu plus qu'avec le GM, mais en même temps, à sa défense, je n'ai pas fait la même utilisation.
Okay.
Donc, c'est difficile pour moi de dire lequel des deux consomme le plus. Mais je serais attiré davantage par le moteur diesel GM que celui du Ram pour le couple du 6 cylindres en ligne, mais aussi parce que l'historique de fiabilité m'inquiète un peu. Je vais le laisser vieillir. Voilà. Fait qu'au retour, on parle avec Pascal Lapierre de Kia Canada.